Pour démystifier le phénomène des aurores boréales, connaître les endroits et les moments où il est plus propice de les observer, je vous présente une entrevue réalisée avec un passionné de manifestations naturelles et un étudiant en sciences de la Terre et de l'atmosphère de l'UQAM, Nicolas Lessard. Monsieur Lessard répond d'abord à ma première question. De quelle manière se forment les aurores boréales?
Les aurores boréales, en fait, là, c'est un processus assez compliqué, mais qui part tout d'abord d'une éjection de masse coronale, donc une éruption solaire. Donc, l'éruption solaire va envoyer des particules chargées, principalement des protons ou des électrons, dans la direction de la Terre. Donc, pour que les aurores aient lieu, il faut qu'il y ait plusieurs conditions, non seulement qu'il y ait une éruption solaire, mais qu'elle soit dirigée vers la Terre. Ensuite, ces particules-là, en fait, vont interagir avec le bouclier magnétique terrestre et vont se diriger vers les pôles. Donc, le pôle sud, le pôle nord. Dans le nord, c'est des aurores boréales. Dans le sud, c'est des aurores australes. Nous, c'est ce qui nous concerne, c'est les aurores boréales dans notre hémisphère. Mais bon, ces particules-là vont interagir avec le bouclier là, dans la magnétosphère de la Terre. Et à 800 à 1000 km d'altitude, là, les particules vont se mettre à être un peu excitées, à interagir avec la magnétosphère et produire des couleurs, tout simplement.
J'imagine donc que plus on est proche des pôles, plus on a de chances d'en voir?
Exactement, c'est vraiment exact. Là. Plus on est proche de l'équateur, moins on a de chances. Donc, des deux côtés de la Terre, donc plus on est au nord dans l'hémisphère nord et plus on est au sud dans l'hémisphère sud, ben, on a plus de chances de voir les aurores boréales.
Si on prend le Québec, est-ce qu'il y a une zone où c'est plus probable d'en voir que d'autres?
Je vous dirais que plus vous êtes au nord ou dans le Québec, plus vous allez avoir de chances. Donc, les gens à Coudjouac, souvent, là, ils ont des aurores boréales au-dessus de leur tête assez régulièrement. Parce que il y a quand même souvent là, des tempêtes géomagnétiques, sauf que les plus intenses ne sont pas très, très fréquentes, ce qui fait que dans la région de Montréal, par exemple, on en a plus rarement. Là.
Est-ce que nous, on se trouve en Basse-Côte-Nord, là, précisément, tête à la baleine, est-ce que en Côte-Nord ou en Basse-Côte-Nord, on est sur un territoire où on peut en observer beaucoup?
Oui, tout à fait. Vous êtes vraiment chanceux dans votre coin. Là. Vous êtes pas mal au nord. Et l'avantage aussi, c'est que vous n'avez pas beaucoup de pollution lumineuse. Mm-hmm. À se rappeler, en Montréal, il y a beaucoup de pollution lumineuse, donc les lumières, les lampadaires, les bâtiments émettent de la lumière qui est un peu absorbée par les particules d'air, ce qui fait que regarder les aurores boréales en pleine ville, c'est quasi impossible. Et vous êtes plus au nord, donc dans les tempêtes géomagnétiques, souvent, vous avez moins besoin de regarder à l'horizon que, par exemple, les gens à Montréal. Donc, vous êtes très bien placé.
Je dois me coucher trop tôt pour être en mesure de les observer. Parce que oui. J'imagine que c'est la nuit, évidemment, qu'on peut les observer, j'imagine.
Oui, c'est ça. C'est la nuit, comme je vous ai dit tantôt, il faut que l'éjection de masse coronale soit dirigée vers la Terre. Premier facteur. Deuxième facteur, il faut qu'il fasse clair, donc pas de nuages. Un autre facteur, je vous dirais même, pour la photographie, l'observation, la Lune. Si la Lune est présente, elle doit émettre une espèce de lumière qui va déranger un peu l'observation. Et l'humidité aussi. Là. De l'humidité, là, surtout l'été, là, ça va avoir tendance à un peu créer un genre de brouillard là, dans l'atmosphère, ce qui fait que c'est un peu moins visible. Il y a quand même beaucoup de facteurs là, pour qu'il y ait des aurores boréales pour qu'on puisse les regarder.
Justement, est-ce qu'on peut donner une approximation peut-être du nombre de fois où on peut observer des aurores boréales sur un territoire donné? C'est sûr que ça doit dépendre du territoire, là, mais disons en Côte-Nord, est-ce que c'est de manière hebdomadaire ou seulement une fois par mois ou quelque chose comme ça?
Je vous dirais que dans la Côte-Nord, là, ça devrait être c'est clairement plus fréquent que dans la région de Montréal, par exemple. Je vous dirais là, peut-être entre 50 et 100 fois peut-être dans l'année là, des aurores modérées à fortes. Il s'agit juste de regarder vers le nord et vous devriez avoir des bonnes chances de regarder les aurores. Okay. Vous regardez aussi les prévisions idéalement sur des sites là, spécialisés pour voir un peu là, ce qui se passe.
Est-ce qu'on peut nommer peut-être ces sites ou ces applications où on peut savoir là, quand c'est plus probable d'en observer?
Oui, tout à fait. Il y a le site de Environnement Canada là, sur la météo spatiale. Okay. Mais ce que j'aime bien utiliser aussi, c'est le site de la NOAA, donc le site américain, le Space Weather. Ça va vraiment. Si on connaît un peu ça, on peut regarder un peu les statistiques, regarder ce qui se passe, puis voir en fait là, s'il y a des fortes chances de voir des aurores ou non.
Est-ce que ça peut évoluer aussi sur un territoire? Par exemple, il y a une légende ici là, au village, une croyance populaire qui veut qu'à une certaine époque, on en observait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être véridique?
Plus ou moins, c'est-à-dire que le soleil va passer dans souvent là, des cycles solaires qu'on appelle. Donc, le cycle solaire, là, c'est un cycle dans lequel le soleil va être un peu plus intense qu'à la normale. Donc, actuellement, en fait, depuis 2020, là, on est dans un creux. En 2022, on commence à remonter un peu la pente là, du cycle solaire. Il y en a eu un en 2014. Donc, le maximum observé en 2014, on avait beaucoup d'aurores boréales. Et le prochain là, devrait être au maximum en 2026. On commence un peu à remonter la pente là, pour l'activité du soleil. Donc, dans les prochaines années, on devrait avoir une augmentation du nombre d'aurores boréales.
OK, donc ça se peut que finalement, pendant une certaine période, on remarque qu'on en observe moins qu'il y a quelques années.
Exactement. Okay. Par exemple, moi, chez Québec Vortex Hydrométéo, là, j'aime bien ça, prendre des vidéos, des photos d'aurores boréales. Je me rappelle qu'en 2014-2015, j'entraînais beaucoup. Et là, depuis les dernières années, là, c'est assez rare d'en voir. Mais ça recommence tranquillement là, avec le cycle solaire qui s'en vient.
Excellent. Est-ce qu'il y a des mythes ou des fausses croyances liées aux aurores boréales?
Je ne pensais pas, honnêtement. Je pense, j'ai entendu là, que comme quoi là, quand les enfants tapaient des mains
oui, c'est ça.
Sol, les aurores boréales se pointaient le bout du nez, mais malheureusement, c'est des fausses croyances, c'est des mythes. C'est purement scientifique là, le fait que les aurores boréales apparaissent ou non.
Excellent. On va briser la magie dans le cœur des résidents de Tête à la Baleine aujourd'hui. Ouais. Mais je vous remercie pour votre rigueur scientifique, malgré tout, pour nous parler du sujet.
Ben, ça fait plaisir.
C'était Nicolas Lessard, étudiant en sciences de la Terre et de l'atmosphère à l'UQAM, aussi membre de Québec Vortex Hydrométéo, qui nous résumait donc les principaux principes des aurores boréales et brisant par le fait même les croyances populaires qui ont pu traverser les années au village comme au sein d'autres communautés. On aura compris que l'été qui approche ne sera pas la meilleure période pour observer les aurores boréales, mais que les prochaines années seront pour leur part plus propices à l'observation de celles-ci comparativement aux dernières années que l'on vient de traverser. C'était vos informations locales présentées par La Voix du Large en collaboration avec l'initiative de journalisme local.